Vous êtes au mauvais endroit, au mauvais moment. Et un crime survient devant vos yeux. Impossible de ne pas regarder. La chaîne télé, Témoin, pour voir la vérité en pleine face. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Sophie Durocher.
Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
On est le 11 janvier 2022. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Écoutez, la saga, vraiment, on peut appeler ça une saga des influenceurs, des fêtards dans l'avion de Sunwing qui sont allés faire la fête au Mexique. Vraiment, ça fait le tour du monde. Et vous connaissez, bien sûr, l'animateur d'émission de fin de soirée, Jimmy Fallon, l'animateur du Tonight Show aux États-Unis. Ben, il en a parlé et ce qu'il avait à dire est absolument rigolo. Alors, je vous fais écouter l'extrait en anglais et je le commente tout de suite après.
We'll get this. A group of Canadian influencers filmed themselves partying maskless on a flight, sparked a huge public outrage. And now they're all stuck in Mexico because airlines are refusing to fly them home. Yeah, no better way to teach someone a lesson than forcing them to spend more time in Cancun.
Alors, il raconte, il dit, il y a un groupe d'influenceurs qui a fait le party dans un avion et les compagnies d'aviation refusent de les ramener au pays. Quelle meilleure façon d'apprendre une leçon, d'enseigner une leçon à quelqu'un que de le forcer à passer plus de temps au Mexique? Et après, il continue en disant, ben oui, prenez des margaritas à profusion. Ça va vous donner une leçon. Vous allez vraiment apprendre à mieux vous comporter. Et c'est vrai, Jimmy Fallon a raison d'une certaine façon. On punit pas les gens en les forçant à rester au Mexique. Je trouvais ça assez rigolo de voir que cette histoire-là, qui est quand même assez gênante, fait à tel point le tour du monde qu'elle fait même le tour des émissions de fin de soirée. Et je vous avoue que quand Jimmy Fallon a fait ce commentaire humoristique, j'ai poussé un très amusé. Ben voyons donc.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher,
Cube Radio.
Préparez vos calendriers parce que dès dimanche prochain, le 16 janvier, c'est le retour de l'émission La Vraie Nature à TVA, animée par Jean-Philippe Dion. 37 invités, donc, dans le nouveau chalet de Jean-Philippe. Ils vont revenir dans leurs souvenirs d'enfance. Il va y avoir des fous rires sûrement, aussi quelques larmes. Il va y avoir 12 épisodes de cette émission vraiment chouchou de TVA. On en parle avec Jean-Philippe lui-même. Bonjour Jean-Philippe. Philippe.
Bonjour Sophie.
Je dois commencer en te disant tout de suite, je suis jalouse à mort. Ton chalet est absolument splendide. J'adore le lieu, j'adore la nature autour, j'adore la décoration. Je veux l'acheter, je veux aller habiter là, c'est magnifique.
Mais tu sais, pour vrai, j'ai été extrêmement chanceux de réussir à trouver ce lieu-là en pleine pandémie. Là, puis ça a été un coup de cœur absolu. Puis tu sais, moi, j'étais convaincue que jamais je retrouverais un chalet aussi intéressant, aussi agréable que l'ancien chalet qu'on avait pour l'émission. Et là, de me retrouver dans ce chalet-là, ça m'a pris peut-être une émission, deux émissions maximum à m'habituer, mais tout de suite, j'ai compris que la magie était pour opérer. Puis tu sais, j'ai quand même la chance aussi d'avoir une équipe extraordinaire pour aménager le chalet.
Oui.
Si j'étais arrivé dans mon chalet...
T'as pas fait ça tout seul!
Non, exactement. Il y a des gens extraordinaires qui ont réussi, qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Donc, c'est vraiment un lieu paradisiaque.
Alors, quand on regarde la liste des invités, écoute, ça fait saliver, là. Sam Breton, Chantal Fontaine, l'ancien maire de Québec, Régis Labeaume, Mado Lamotte, Nathalie Simard. Écoute, c'est des noms que je fais juste aligner ces noms-là, puis je me dis, mais quel est le lien, quel genre de chimie il va y avoir entre ces invités-là? Si tu dois regarder ces 12 émissions-là, quel est la relation entre les invités qui t'a le plus surpris, Jean-Philippe?
Mais tu sais, c'est souvent intéressant lorsque une ou un des invités est un peu plus âgé. Par exemple, dans la première émission qu'on va voir là, ce dimanche, il y a Monique Jérôme Forget qui est là, donc ancienne ministre des Finances, présidente du
Madame Sacoche.
Oui, Madame Sacoche en personne, Madame Pépine aussi. Donc, oui. Monique est là, puis c'est beau de voir Karine Vanasse et Simon Boulris, donc les deux autres invités de l'émission. Mais je dirais encore plus Karine Vanasse parce que les regards que portent les autres invités sur quelqu'un qui a une réflexion de vie, qui a une expérience de vie encore plus grande, et surtout quelqu'un comme Monique Jérôme Forget qui reconnaît ce qu'elle a fait de bien, ce qu'elle a pas fait de bien. Elle se fout complètement de ce que les gens vont penser d'elle. Fait qu'il y a quelque chose qui fait vraiment du bien là-dedans par rapport à des artistes, par exemple, qui sont plus jeunes. Donc, tu sais, je m'inclus là-dedans, tu sais, où on va un peu plus surveiller ce que les gens vont penser. Nous, on veut être sûr que les gens vont nous aimer, tout ça. Mais quand on est rendu, je sais pas, à 75 balais, là, dépassé, à un moment donné, on se fait, hey, regarde, si les gens m'aiment pas comme je suis, ben, tant pis. Puis ça, c'est intéressant d'entendre ça, t'sais.
Toi, est-ce que tu t'approches de ça? Est-ce que c'est quelque chose, une chose à laquelle tu aspires d'arriver à te dire, ben moi, je m'en fous de ce que les gens pensent de Jean-Philippe Dion? Est-ce que c'est quelque chose une chose sur laquelle tu travailles, par exemple?
Je pense que ce serait faux de dire que je m'en fous. Je pense que ultimement, on fait ce métier-là aussi pour être aimé, puis pour avoir aussi de l'affection, parce qu'on doit être carencé quelque part. Mais en même temps, je suis pas quelqu'un qui non plus qui vit en regardant ce que les autres vont dire de moi sur les réseaux sociaux et tout ça. L'influence, la réflexion des gens autour de moi à mon sujet va m'importer plus que ce que quelqu'un qui ne me connaît pas va penser de moi. Mais en même temps aussi, tu sais, j'apprends aussi, puis j'ai beaucoup appris ça pendant ma carrière, à laisser tomber aussi l'espèce de quête de perfection absolue. Parce que ça, je pense que c'est un des éléments les plus négatifs dans une vie, là, tu sais, de vouloir être parfait. Il n'y a rien de plus plate qu'une personne parfaite. Il n'y a rien de plus lisse qu'une personne parfaite. Puis je pense que, tu sais, puis je le vois aussi, mes invités qui sont trop parfaits et qui veulent paraître trop parfaits, je trouve ça plate. Je trouve ça pas intéressant. J'essaie de trouver...
Ça donne des moins bonnes émissions. Oui, ben, c'est ça donne des moins bonnes émissions.
Ben, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, les personnes, en fait, il y a personne non plus qui est complètement lisse. C'est souvent parce qu'on tente, on pense que les gens vont nous aimer davantage si on se présente comme ça. Mais tout le monde a une histoire intéressante. Tout le monde est passé par quelque chose. Puis, c'est pas obligé d'être des histoires épouvantables et horribles, tu sais. Mais je l'ai vu avec certains invités cette saison qui sont aussi, ça, c'est intéressant aussi, selon où tu es rendu dans la vie, selon ton âge, il y a souvent un peu le même type de réflexion. Tu sais, je réalise, je préfère écrire un livre sociologique avec de la vraie nature, mais tu sais, à la fin de la vingtaine, début de la trentaine, c'est vraiment le moment où les invités sont moins dans une analyse de vie, mais sont plus en mode « je suis sur l'autoroute, je conduis à vive allure, je réfléchirai demain au sens de ma vie, là j'avance ». Tu sais.
C'est intéressant, bon, c'est une belle image.
Souvent, ouais. Mais souvent, les invités un peu plus âgés vont dire, tu sais, par exemple, je pense à Dany Turcotte avec Rosalie Vaillancourt. Tu sais, il y a une phrase bien, bien forte, Dany, qui dit « calme-toi, tu sais, à Rosalie, parce que son métier, c'est tout ce qui est important, c'est juste ça, sa vie. » Même chose pour Sam Breton, tu sais, qui réussit en ce moment, qui est partout, qui a un succès incroyable. Mais les autres invités étaient comme « oui, oui, mais tu vas comprendre plus tard, tu sais. » Puis moi, je m'identifiais beaucoup à Sam, tu sais, qui est dans ça en ce moment, parce que je l'ai été, moi aussi, dans ce moment-là où tout va vite, on, tu sais, notre carrière va bien, puis on n'est pas dans un mode de réflexion, on veut juste avancer puis faire un bond encore plus grand. Mais à un moment donné, ça finit par nous rattraper, puis là, on commence à se dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment?
C'est très bon. Et l'analogie où tu disais, quand on est dans la vingtaine, on est comme sur l'autoroute, puis on fait juste aller très, très vite et on se pose pas trop de questions. Et plus tard, ben on regarde dans le rétroviseur pour reprendre l'analogie. Et là, quand on regarde dans le rétroviseur, il y a parfois des réflexions de vie. Mon collègue Jean-François Paquet, qui réalise l'émission, a fait un petit montage avec différentes, bon, la bande-annonce, différents extraits. Alors, on va écouter ça, des moments forts de ton émission qui commence dimanche.
Je déclare ce territoire conquis.
Tu m'en feras un
arbre. Oh yes, il y a des poules!
C'est magnifique!
Et j'ai pu creuser.
Ça, c'est trop cool!
Aimez-vous ça, replonger, vous autres, dans votre enfance?
Moi, c'est une affaire que non.
Ça part bien!
Ça ressemblait à quoi ce qu'on te faisait vivre au secondaire?
Je passais dans le corridor puis j'entendais quelqu'un murmurer.
Ah, c'est fif. Voyons, pourquoi on parle tout le temps ici?
Merci de me donner la chance de vivre ça, ce qu'on vit là.
Bye bye! Bye!
Bon, la chanson est absolument magnifique. C'est « Je te fais confiance » ou « Fais-moi confiance », je me souviens jamais.
« Je te fais confiance », ouais, puis c'est signé par Rosalie Ayotte qui a participé à Star Academy l'année dernière. Puis c'est drôle parce que quand je lui ai demandé, lorsqu'elle a été éliminée, là, lorsque l'aventure s'est terminée pour elle, je suis allé la voir puis j'ai dit « Rosalie, j'ai quelque chose pour toi, je vais t'en parler plus tard ». Puis quand on s'en est parlé, elle m'a dit « J'aime tellement la vraie nature ». Puis en une semaine, elle m'avait pondu un texte, une musique, et c'était exactement ça. Il n'y avait rien à changer.
C'est fou,
c'était
hein?
parfait. T'sais, la sensibilité d'une artiste, là, d'être capable de capter l'essence d'un projet, l'émotion dans un projet, puis transmettre ça en musique, ça m'a vraiment beaucoup touché. Puis cette chanson-là, en fin de semaine, on l'a lancée vendredi dernier, puis en fin de semaine, elle était numéro 1 iTunes francophone, donc je me dis que les gens l'aiment aussi.
Ça a touché une corde sensible chez les gens. Non, elle est absolument magnifique, cette chanson-là. Je veux parler du titre de l'émission, La vraie nature. Il y a vraiment un un jeu de mots, en fait, entre la vraie nature d'une personne et la vraie nature, donc le contact avec la nature. Puis on est tellement, personnage urbain, déconnecté de la nature. Dans quelle mesure, Jean-Philippe, le fait que l'émission soit tournée dans un chalet bucolique, les gens sont à l'extérieur, le contact avec les arbres, capturer le brin d'herbe, comme disait Paul et Paul. Oui. Dans quelle mesure ce contact-là avec la nature, ça peut être un élément déclencheur pour des invités?
Bien, c'est sûr que cette émission-là, tournée dans un quatrième sous-sol à TVA, ça ne se donnerait pas la même chose du tout, du tout. Puis tu sais, toute l'équipe de Déferlante, on met beaucoup d'énergie et de temps sur des choses que peut-être que ça vaudrait pas la peine, peut-être que c'est du temps gaspillé, mais on
comme
veut
quoi?
Vraiment que l'expérience...
Comme quoi, par exemple?
En fait, juste être sûr, tu sais, quand on a eu le chalet, OK? Et là, je trouvais que les plantes autour du chalet étaient pas belles, puis que c'était pas assez beau à l'œil. On a fait planter des plantes, on a embauché une équipe de jardinage pour venir, on a installé une pergola en nature, parce que je trouvais que de pas manger à l'extérieur puis d'être toujours en cabanie à l'intérieur, c'était pas intéressant. Il y a comme plein d'affaires qu'on a fait pour être sûr que les invités vivent une expérience puis que tout soit parfait. T'sais, quand ils arrivent, ils ont des cadeaux sur leur lit. T'sais, on a testé les oreillers, le matelas, comme tout est fait pour que l'expérience des invités soit extraordinaire. T'sais, si je sais que tel invité aime telle sorte de vin rouge, ben il va avoir ce vin rouge-là au souper. Si on sait qu'il aime les chips au ketchup, ben sur la table, à leur arrivée, il va avoir un plat de chips au ketchup. Là, donc, on va vraiment loin dans l'expérience qu'on offre à ces invités-là. Puis, pour revenir à ta question sur la nature,
oui.
C'est sûr que ça change complètement parce que les invités, c'est juste la barque là, dans le format de cette émission-là, parce que La vraie nature, c'est un format français, puis ils utilisent la barque aussi. Mais la barque est faite pour déconnecter. Tu sais, c'est vraiment la déconnexion qui se crée. Donc, entre la vie d'avant puis la vie des prochaines heures. Donc, l'invité, en fait, c'est sûr qu'en faisant, en essayant de manipuler la barque, de ramer, ben, oublie ses tracas, oublie ses soucis, puis là, tombe aussi dans une espèce d'ouverture. Puis on le voit, là, l'invité qui est un peu stressé avant d'embarquer dans la barque, une fois qu'il arrive sur le terrain du chalet, après avoir franchi la rivière, ben, il est dans une autre disposition totale. Puis, tu sais, le temps qu'on les laisse aussi avant que moi j'arrive, c'est aussi, ils profitent du terrain, ils se balancent sur la
galerie. Mado Lamotte. Donc, c'est,
oui, ben, exactement, Mado avec ses talons hauts et sa valise dans les rochers. C'est magnifique, mais c'est sûr que la nature apaise aussi, puis ça fait du bien, tu sais.
Ça fait du bien. Écoute, je veux revenir dans l'extrait qu'on a entendu. Il y a Simon Boulris, donc, qu'on va retrouver dans la première émission du 16,
ouais.
Qui raconte, donc, quand il était ado, ben, à l'école, les gens, quand ils croisaient dans le corridor, le traitaient, je m'excuse, je vais le dire, là, mais d'hostie de fif. Ça vient te chercher?
Ben, c'est sûr que ça vient me chercher. Puis, je pense aussi qu'une bonne entrevue part souvent aussi d'éléments qui, nous, en tant qu'intervieweurs, va nous toucher, va nous interpeller. Tu sais, moi en ce moment, je suis famille d'accueil. Tu sais, donc c'est sûr que toutes les histoires d'adoption cette saison ont une résonance vraiment différentes pour moi. Tu sais, je pense à Elisapie Isaac qui a été adoptée. Donc, vous allez voir, il y a un moment au souper quand Elisapie parle, qui vient vraiment me chercher, ça m'émeut. C'est très rare que, tu sais, que je me laisse complètement émouvoir parce que je veux garder le contrôle, moi, pendant mes entrevues. Mais quand ça vient chercher comme ça une corde très sensible, tu sais, que tu vis en ce moment, c'est sûr que moi, ça m'interpelle. Puis même chose pour Simon, tu sais. Puis je pense que je me fais un devoir aussi de parler justement d'orientation sexuelle, parce que, tu sais, quand on est passé à travers ça, puis qu'on l'a vécu parfois difficilement, là, tu sais, je pense que c'est important aussi, puis on a un devoir aussi d'en parler, puis d'essayer de faire tomber les tabous.
T'as dit une phrase extrêmement importante tout à l'heure, je l'ai notée sur mon petit bout de papier bleu ici, devant mon micro. Ah. T'as dit « tout le monde a une histoire intéressante ». Et je pense que c'est ça ta force, Jean-Philippe, c'est que on te mettrait devant la personne peut-être qui a l'air la plus plate ou la vie la plus beige, et t'arriverais à trouver quand même un quelque chose, une faille ou un... Je trouve que ça résume un peu ta philosophie de vie. Tout le monde a une histoire intéressante. C'est un peu la méthode, Jean-Philippe Dion, quand même, que tu nous as résumé là.
Ben, tu sais, puis j'ai toujours en tête une émission qu'un jour, peut-être que j'animerai ou que je produirai, je sais pas, mais qui démontre ça, que tout le monde a une histoire, tu sais. Parce que souvent, il y a des gens, tu sais, en fait, il y a beaucoup de gens du public qui m'écrivent pour me dire, hey, moi, j'aimerais ça participer, j'ai une histoire, tu sais, j'ai envie de partager quelque chose. Mais je suis convaincu que même si toi, tu penses pas avoir une histoire, il y a quelque chose d'intéressant à transmettre de ton parcours. T'sais. Puis même, t'sais, j'ai eu des invités, je pense à Sébastien Benoît, qui est arrivé en disant « moi, j'ai pas d'histoire ». Mais finalement, son pas d'histoire a été la meilleure histoire de cette émission-là. C'est ça qui a été intéressant à analyser, que lui, il trouve donc qu'il n'y a pas d'histoire, que son histoire n'est pas intéressante. Mais au final, c'est pas vrai, puis c'est ça qui est intéressant d'analyser pendant l'entrevue. Donc, j'aimerais ça l'essayer à un moment donné, tu sais, de rencontrer des gens, puis de faire, hey, je sais rien de toi, mais je vais trouver la bonne histoire que tu pourrais raconter.
Mais moi, j'achète le concept tout de suite. On appelle TVA, puis on leur dit, on produit cette émission-là. Moi, je vais la produire même. Non, mais donc on prendrait, mettons, Jean-Philippe Dion, on l'emmène au Carrefour Laval ou la Place Laurier à Québec, puis on te met un bandeau sur les yeux et on prend des gens totalement au hasard, puis on met deux chaises en plein milieu du Carrefour Laval, puis on dit, vas-y, Jean-Philippe, trouve c'est quoi la faille, c'est quoi la lumière, la bougie d'allumage de cette personne-là. Je suis sûr que ça ferait une émission extraordinaire.
Ouais, ben bientôt dans votre télé, une production Sophie Durocher.
Faut qu'on trouve un nom pour ma compagnie de production. Jean-Philippe,
de production,
c'est vraiment
exact.
Et écoute, c'est toujours un plaisir de te parler. Donc on va écouter ça dimanche prochain, le 16 janvier, ça commence sur les ondes de TVA. 37 invités dans ton nouveau chalet. Qu'est-ce qui est arrivé avec l'ancien chalet? Tu l'as vendu, tu l'as loué, qu'est-ce qui est arrivé?
Ouais, ben en fait, c'est mon associé qui était propriétaire de ce chalet-là
qui
a été vendu. Monsieur Clermont, exactement. Donc, Monsieur Clermont, pendant la pandémie, a vendu le chalet. Mais là, je me suis assuré cette fois-ci que le chalet ne repartirait pas en devenant propriétaire. Donc, puis il manquait pas Star Academy aussi. C'est le grand retour dimanche soir. Puis on est en répétition en ce moment. Et ça va être vraiment un bon choix avec Daniel Bélanger. Les candidats sont solides. C'est vraiment, ça va être un bon lancement de Star Academy.
Oui, ben non, c'est ça, parce qu'on peut pas parler de tous les chapeaux que tu portes, parce qu'ils sont nombreux, mais tu fais bien, en effet, de parler de cette petite émission, une toute petite production qui t'occupe tout petit peu Star Academy. On avait fait le choix aujourd'hui de plus mettre l'accent sur la vraie nature, mais c'est vrai qu'on aurait pu aussi tout à fait parler de plein d'autres projets à toi. Merci beaucoup, Jean-Philippe, c'est toujours un plaisir de te parler.
Merci, Sophie, c'est très gentil. Bonne journée.